En liquidation judiciaire, le zoo de Pont-Scorff a été repris jeudi 20 mai par Sébastien Musset, restaurateur à Perros-Guirec, et il est mon invité aujourd'hui. Bonjour Monsieur Musset.
Bonjour.
Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment on passe de restaurateur à gérant d'un zoo ?
Oula, c'est un raccourci rapide. disons que c'est surtout passer d'un monde dans lequel moi j'ai été dirigeant de différentes entreprises dans différents secteurs depuis une vingtaine d'années.
Ouais.
Et avec une très forte envie à la fois de m'ancrer en Bretagne, de m'ancrer dans Perros, parce que Perros est la ville de mon enfance.
Ouais.
Ça s'explique l'investissement dans la restauration, et puis de m'ancrer dans l'entrepreneuriat. Donc je dirais que la bascule, elle se fait pas de la vie de restaurateur à la vie de patron de zoo, elle s'est faite plutôt de la vie d'un dirigeant de différents grands groupes à quelqu'un qui a envie de s'ancrer en Bretagne à travers différents projets entrepreneuriaux.
D'accord. Et vous êtes passionné d'animaux, vous avez visité, je suppose, plusieurs zoos?
Oui, alors moi je suis passionné d'animaux depuis que je suis très petit. J'ai eu la chance ou la malchance, mais comme de nombreuses personnes qui nous écoutent, d'avoir une enfance un peu bousculée par des histoires d'adultes et un divorce de parents un peu compliqué.
Ouais.
Et c'est vrai que étant gamin, la relation avec l'animal m'a énormément aidé. Alors à l'époque, je parlais pas d'éléphants, de girafes ou de grands perroquets. On parlait de souris, de hamsters ou d'aquarium. Mais le fait de s'occuper d'animaux, de leur bien-être, de les nourrir, de s'en occuper, m'a à l'époque sauvé la vie, hein, quand j'étais gamin. Et j'en ai gardé une relation très forte, y compris à Perros, à notre domicile. On a un certain nombre d'animaux depuis très longtemps. Et bon, il y avait une sorte de continuité entre cette passion d'un côté et l'envie d'être entrepreneur et de s'ancrer encore plus fortement dans la Bretagne, quoi.
Qu'est-ce qui vous plaisait dans ce projet de reprise de zoo ?
Oh, y a plusieurs axes. Le premier, c'est que c'est un site, c'est surtout l'attachement à Pont-Scorff, hein, qui est un site que j'avais pu visiter plusieurs reprises quand j'étais plus jeune.
Ouais.
Il y a plusieurs axes. Il y a évidemment le sujet animalier, le bien-être animal est quelque chose qui m'a toujours beaucoup concerné. Et quand vous visitez Pont-Scorff, en tout cas ces dernières années, et que vous sortiez du site, honnêtement, ça faisait mal au cœur. Hein, pas d'autre mot. Donc il y a d'abord cette envie-là, cette implication-là. De deux, c'est un site qui a donné lieu à beaucoup d'instabilité toutes ces dernières années, avec beaucoup de dirigeants successifs, beaucoup d'actionnaires successifs. Donc il avait un peu perdu son âme, je trouve. Et puis de trois, c'est un lieu qui a été le théâtre de beaucoup d'antagonismes, qui reflète un peu d'ailleurs les débats de société actuels. La captivité, pas la captivité, le business autour de l'animal, puisque certains disent ça, les volontés de préservation, de réintroduction d'espèces en milieu naturel. Donc, Pont-Scorff a été un peu le théâtre de beaucoup d'oppositions, on va dire, philosophiques. Et le fait d'essayer d'apporter une vision et beaucoup d'apaisement autour de tout ça, d'essayer de faire un projet qui fédère des acteurs qui aujourd'hui, ou en tout cas par moments, se mangent le nez, mais pour être un peu plus... proche du milieu, on va dire, se mange le museau, et un des points qui me plaisait beaucoup, c'est d'apporter une vision et une sérénité.
Alors parlez-nous un petit peu du projet Brace Park, quel est son but ?
Alors l'objectif, il est de permettre de faire revivre cet établissement qui a été créé en 1973 par un passionné d'animaux. Alors évidemment, on parle en 1973 d'un rapport à l'animal qui est totalement différent de celui qui est aujourd'hui, et je dirais l'évolution, elle était souhaitable et elle s'est opérée au fur et à mesure des dernières décennies. 1973, c'est l'époque où on a des félins sur l'épaule, où on éduque les pumas et où on les amène dans les écoles, et nombre d'enfants devenus grands aujourd'hui ont vu Pierre Thomas ou sa famille venir présenter ainsi notamment des félins, puisque c'était sa passion d'origine, hein. Il venait du monde du cirque, Pierre Thomas. Donc l'objectif qu'on a d'abord, c'est de faire revivre ce site à travers un rapport à l'animal qui s'ancre dans les années 2020 ou 2030. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire retrouver et développer du bien-être animal. On aura dès le mois de septembre un responsable bien-être animal au sein du site.
D'accord.
Qui va définir la taille des enclos, qui va définir, qui seront tous en extension, hein, les enclos.
C'est ça, les enclos étaient trop petits aujourd'hui.
Ouais, tout à fait. Les enclos sont petits. Je dirais que c'est un peu il faut pas m'en vouloir du mot, mais un peu un zoo à l'ancienne où, vous savez, cette époque, en fait, il y a quelques décennies maintenant, où on connaissait pas du tout l'animal, on n'avait pas la richesse des émissions de télévision, des réseaux sociaux, du partage ou de certains documents, enfin magazines qui permettent de donner beaucoup de richesse sur le monde animalier. Donc on venait au zoo un peu comme ces grands navigateurs qui allaient à la conquête des pays pour découvrir des animaux qu'on voyait pas. Ouais. Donc on s'émerveillait devant des animaux qu'on ne voyait pas et qu'on n'avait jamais vu et qu'on verrait jamais. Bon, ce monde-là, il est révolu. Vous savez, ce monde où on passe d'un enclos à un enclos en disant « Regarde, j'ai vu un éléphant, regarde, j'ai vu une girafe, super, j'ai vu un perroquet ». Nous, l'objectif, à travers cette logique de bien-être animal, c'est d'être beaucoup plus dans des approches d'immersion, donc des grands espaces, des grandes volières, sur lesquelles c'est le public qui va être quelque part en captivité au sein de la relation avec l'animal et pas l'inverse.
Ouais. C'est primordial. Hein. Aujourd'hui, on le voit dans beaucoup de zoos, hein, où il y a beaucoup d'espace pour les animaux. Et là, on était plus sur un zoo, comme vous dites, un petit peu à l'ancienne. Vous savez pourquoi le zoo de Pont-Scorff a été en liquidation judiciaire. Vous savez pourquoi le tribunal a retenu votre projet par rapport à celui de l'ONG Sea Shepherd? Vous vous attendiez à la décision?
Alors, dire pourquoi le tribunal a pris cette décision, il faudra leur poser la question. Moi, je suis pas à leur place. Ce que je pense qui a probablement été dans les éléments importants, c'est d'abord le rationnel économique. Ouais. Ça reste une entreprise. Une entreprise, il faut qu'elle bénéficie de chiffre d'affaires pour pouvoir investir. Au-delà, je dirais, de payer toutes ses charges, hein, de pouvoir investir dans le temps. Donc je pense que ça c'est un premier élément et à tort ou à raison, en tout cas j'aurais pas de jugement, mais le modèle économique qui était proposé par Sea Shepherd basé sur des dons récurrents et peut-être, je dis bien peut-être, hein, je suis pas à la place du tribunal, mais un élément qui a pu faire prendre la décision au tribunal sur notre projet. De deux, je pense qu'on a réussi à réunir un tour de table avec des actionnaires qui moi m'ont tous donné un engagement ferme de ne pas demander la moindre rentabilité financière et le moindre retour de leurs capitaux pendant une durée minimale de 5 ans.
D'accord.
Donc c'est même des gens qui, à l'heure où je vous parle, ont mis plus de 4,5 millions d'euros au total. Hein. Je suis l'un des associés, mais je ne suis pas seul, je n'ai pas ces moyens-là.
Ouais.
Mais les gens, les 6 investisseurs qui sont venus aujourd'hui à mes côtés sont tous des gens qui se sont engagés à laisser cet argent pour pouvoir restructurer le parc. Je pense que ça aussi, ça a été de nature à rassurer le tribunal. Et puis c'est vrai qu'à regret, mais il y a souvent des raccourcis qui sont faits, notamment en termes de communication, mais à regret, on nous a beaucoup opposé avec Sea Shepherd, avec Rewild, qui était l'association.
C'est ça.
Je suis pas certain qu'on soit tellement en opposition, en fait.
Eux souhaitaient renvoyer les espèces dans leur milieu naturel. Hein.
Oui, alors il faut être raisonnable. Aujourd'hui, 85% des animaux qui sont réintroduits dans leur espace naturel meurent au bout d'un maximum de 2 ans. Donc c'est simplement parce que le grand public aujourd'hui, quand il voit des animaux en captivité, se dit oh là, ces pauvres animaux, il faut à tout prix qu'ils soient dans leur espace naturel. Bon, il y a beaucoup de choses en fait à prendre en compte autour de cette approche-là. D'abord, l'espace naturel, il n'existe plus toujours parce que le développement humain, quels que soient les pays, les zones géographiques, progresse toujours plus. On peut le regretter, on peut le contester, mais on va pas demander aujourd'hui à des pays en développement, désolé, mais vous développez plus rien parce que vous allez devenir le jardin du monde et on va vous confier les animaux. Non, ça peut pas se faire comme ça. Donc, réintroduire des animaux en espèces naturelles, il faut d'abord que c'est une logique et un intérêt du point de vue de l'espèce avant d'être dans une logique d'animal à titre individuel.
Ouais.
Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'un visiteur qui passe dans un parc animalier ou dans un zoo et qui voit à travers des grilles parfois trop petites une panthère, va dire la pauvre panthère, elle serait mieux dans son milieu naturel. Je pense que la réflexion qu'il faut mener, c'est pas au niveau de l'animal, c'est au niveau de l'espèce. C'est de se dire, est-ce que cette espèce a un intérêt à être réintroduite en milieu naturel? Est-ce que le milieu naturel existe? Est-ce que la génétique de l'animal en question ne va pas hybrider les animaux au niveau local, parce que l'hybridation de la génétique peut conduire finalement à la fin de l'espèce en milieu naturel. Donc c'est toutes ces questions en fait qu'il faut se poser pour arriver jusqu'à une réintroduction réussie. Et donc oui, le projet que je porte du Bryce Park porte cette dimension-là avec beaucoup de conviction, mais elle le porte, et c'est peut-être mon passé ingénieur, mais elle le porte avec aussi beaucoup de rationnel scientifique, d'appui sur des gens dont c'est le métier, pour pouvoir développer avec le plus de succès possible et à nouveau dans un intérêt qui n'est pas l'animal en tant qu'individu, mais bien l'espèce et sa pérennité au sein des espaces naturels.
D'ailleurs, vous souhaitez accueillir toutes sortes d'espèces. On sait qu'entre les zoos, il y a beaucoup d'échanges.
Oui, c'est tout à fait vrai. Alors, c'est aussi un élément très important du projet que je porte. Hein, quand je parlais de sérénité tout à l'heure et du fait que Pont-Scorff a été le théâtre d'affrontements philosophiques, ces affrontements-là, ils sont utiles, ils font progresser la réflexion. Moi, j'ai coutume de dire que c'est dans la confrontation des idées que naissent l'excellence des décisions. Donc, il faut continuer à avoir ces confrontations-là, ces réflexions. Maintenant, il faut aussi travailler avec tout le monde. Donc, j'ai noté que la Fondation Bardot, que Sea Shepherd, que les salariés sur site, Rewild, nous avaient tendu la main c'est un élément extrêmement positif pour moi, pour pouvoir construire un projet avec tout le monde. Ouais. Il y a beaucoup d'associations qui font un boulot remarquable. On peut aussi penser à la LPO, qui est pas très très loin de chez nous à Perros. Ouais. On peut aussi penser au GMB, hein, le groupement des mammifères bretons, qui fait un boulot confidentiel, parce qu'il communique peu, mais assez extraordinaire. Donc la main, elle est tendue à tous ces gens-là en retour, mais elle est aussi tendue au parc animalier et aux zoos. Moi, je suis pas du tout contre l'EASA, qui est l'institution européenne qui gouverne tous les zoos qui ont adhéré, et dans lesquels, oui, il y a des échanges d'animaux. On va avoir une ligne directrice, nous, très claire, hein, au sein du Bryce Park, c'est de se rattacher à l'histoire bretonne.
D'accord.
À la fois, les Bretons ont une terre de biodiversité formidable, hein. On peut parler de la loutre, on peut parler des ours, qui, encore quelques centaines d'années, étaient présentes dans l'espace breton. Donc, il y a un certain nombre de mammifères, d'oiseaux qui sont endémiques à la Bretagne ou qui l'étaient. Donc, ça fera partie d'une des zones du futur parc. Il faut se souvenir aussi que les Bretons, à l'époque, ont largement alimenté, notamment la cour de Louis XIV, en termes financiers, et qui faisait partie de ceux qui allaient à l'exploration des terres, qu'elles soient américaines, asiatiques, africaines. Et à l'époque, elles ont ramené beaucoup d'animaux, beaucoup de flore aussi. Et je trouve qu'il y a un joli sens de l'histoire aujourd'hui à se dire qu'on va s'imprégner de cette histoire-là et de ce qu'ont pu faire tous les corsaires bretons à l'époque. Cette fois-ci, en étant dans une logique de préservation des espèces. C'est-à-dire pas seulement je ramène un animal pour l'exposer et le montrer à des gens qui n'en avaient jamais vu, mais de les maintenir en préservation et de les réintroduire dans l'espace naturel. À l'époque, il y a quelques centaines d'années, on est allé les chercher. Bah aujourd'hui, on les préserve et on les réintroduit dans des sanctuaires ou dans des espaces naturels qui sont préservés. Ça va être ça l'histoire de Bryce Park, donc autour de la culture bretonne d'une part et de la préservation animale d'autre part.
Ça va être quoi vos premiers travaux ?
Alors ils sont nombreux, et d'ailleurs à l'heure où je vous parle, là, je fais une petite pause dans une réunion qui nous anime depuis ce matin avec quelques associés et des personnes très compétentes dans le domaine. Il y a trois axes. Il y a un premier axe qui est tout le réglementaire. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui ne sont pas aux normes. Je vous en donne un exemple, l'assainissement. Ouais. Vous avez aujourd'hui un certain nombre d'enclos qui sont nettoyés, dans lesquels les eaux ensuite partent directement dans les nappes phréatiques et dans le scorf ensuite. Donc on va dire que ça, par rapport à l'exemplarité écologique qu'on veut porter au niveau du Bryce Park, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable et qui de toute façon n'est plus toléré d'un point de vue réglementation. Donc ça, c'est la première catégorie de travaux. Deuxième catégorie de travaux, c'est évidemment tout ce qu'il y a autour du bien-être animal. Vous avez aujourd'hui des enclos trop petits, vous avez, pour donner un exemple, hein, la loge de nuit des girafes n'est pas du tout isolée, donc elle est ouverte aux quatre vents. On a la chance de pas avoir un climat trop rigoureux dans notre Bretagne. Ouais. Donc, quand les températures descendent à 8-9 degrés l'hiver, ou parfois un petit peu moins, bon, c'est pas tout à fait moi ce que je souhaite en termes de bien-être animal pour les girafes qui sont chez nous. Donc premier axe, toute la partie réglementaire. Deuxième axe, toute la partie bien-être animal. Puis troisième axe, l'accueil des visiteurs, puisque ce qui aussi faisait une différence avec les autres projets, qu'il soit celui de la SCOP des salariés, la Rewild ou de Sea Shepherd, c'était l'ouverture au public. Aujourd'hui, la manière dont on accueillerait le public à Pont-Scorff n'est pas du tout au niveau, donc il y a aussi un gros effort à faire autour de ça. Ouais.
Et l'ouverture est prévue quand ?
Alors au mieux au printemps 2022, je dis bien au mieux parce qu'il faut à tout prix qu'on fasse d'abord tous les travaux qu'on souhaite mener en termes de priorité. Tout ne sera pas fait, c'est-à-dire qu'au moment de la réouverture, il y aura des choses qui n'auront pas pu être faites, soit parce que le temps nous aura manqué, soit parce que les investissements qu'on met aujourd'hui sur la table, on le sait, ne sont pas suffisants pour tout refaire, mais une bonne partie aura pu être faite. Et donc, on expliquera aussi aux visiteurs qui nous feront confiance à partir du printemps ou de l'été 2022 ce qui a été fait, pourquoi ça a été fait, pourquoi ça a été ces priorités-là, et ce qu'on s'engage à faire dans les 5 ans qui viennent, au gré des investissements qu'on pourra faire.
Vous allez vous partager du coup entre Perros-Guirec et Pont-Scorff ?
Entre Perros-Guirec et Pont-Scorff, oui. Ma famille et moi-même continuons à vivre à Perros. Il n'est pas question qu'on déménage. On est trop attachés à cette région dans laquelle moi, mes grands-parents m'avaient installé alors que j'avais à peine 2 mois. Donc on a la chance de vivre dans cette côte de granit rose qui est quand même fantastique. Ouais. Et puis Pont-Scorff, c'est jamais qu'à 2 heures de route, hein, donc ça oui. Se fait plutôt bien par petite session. Et puis j'allais dire heureusement ou malheureusement, mais quelques allers-retours à Paris pour voir des investisseurs, pour voir un peu l'écosystème de ce nouveau monde qui doit aussi être impliqué dans ce projet. Ouais.
Et puis le Bryce Park, donc c'est une aventure collective.
Alors oui, vous avez complètement raison de le souligner, c'est collectif parce que si à l'époque j'avais pas eu un ami qui m'avait envoyé ce petit message un soir du 27 février d'un article d'un quotidien local disant que le zoo était en redressement judiciaire, je me serais pas lancé dans l'aventure. si j'avais pas eu la chance de croiser les vétérinaires qu'on a aujourd'hui en Europe, l'aventure n'aurait pas poursuivi. Les investisseurs, les associés, certaines personnes extrêmement compétentes, hein, je pense notamment à quelqu'un qui s'appelle Francis Hugon, qui habite pas loin de nous, hein, il habite à Saint-Michel-en-Grève, donc il s'est installé là il n'y a pas très longtemps,
ouais.
Et qui est un expert de tous ces sujets de parc animalier, de bien-être animal, de construction, d'enclos, de loges de nuit. Donc oui, c'est un écosystème de plein de gens qui se retrouvent autour d'un projet et qui ont la passion de faire revivre ce site.
Eh ben, merci beaucoup, Monsieur Musset, d'avoir été sur Millennium.
Eh ben, écoutez, merci à vous et puis merci à toutes les auditrices et les auditeurs.
Merci, à bientôt. Au revoir.
Au revoir.